Nous sommes donc en compagnie de Bernard Guironnet, qui est un grand voyageur en Chine. Il est parti 3 mois avec son appareil photo sur les traces d'une Chine traditionnelle et de son évolution, avec une attention particulière à l'ethnie des Mosso, entre autres, et aussi à la nature. Alors Bernard Guironnet, pourquoi cet attrait des voyages lointains ?
Cet attrait des voyages lointains, il y a une question matérielle d'abord, parce que ma compagne est photographe maintenant, et donc on cherche beaucoup de thèmes de photos. Il y a aussi l'attrait de découvrir de nouvelles populations, de la nature, des animaux lorsqu'il y en a. C'est pas en Chine, c'est surtout la nature qui nous a intéressés, et les ethnies, comme vous l'avez souligné, l'ethnie Mosso en particulier, qui vit à la limite du Sichuan et du Yunnan, plutôt sur le centre nord de la Chine.
Bon, alors vous avez répondu à ma question en parlant de votre compagne, mais vous, la Chine, est-ce que vous en rêviez depuis longtemps ?
Moi, j'en rêve, oui, parce que ma carrière professionnelle était dans l'automobile et on parlait beaucoup de la Chine dans les futures années. Et donc là, j'ai eu l'occasion de faire deux voyages. Donc un voyage qui a eu lieu en juillet, à l'été 77, pendant 2 mois. Et puis un voyage plus ciblé qui a eu lieu en mars 2008. Ça a permis de comparer d'ailleurs pour des voyageurs la nature à deux époques très différentes. Et quand on parle par exemple de rizières, où l'on peut faire des photos extraordinaires, eh bien c'est tout à fait différent. Et selon ses goûts, on peut préférer soit les rizières en juillet avec le riz tout vert, ou soit les rizières, soit les miroirs du ciel, comme l'on dit, au mois de mars. Mais il fait un peu plus froid.
Vous préférez quoi ?
Moi personnellement, je préfère de beaucoup le mois de mars, parce que il y a des sites de rizières. Il y a une ville qui s'appelle Yuangyang dans le Yunnan. C'est absolument magnifique. On se levait souvent à 5-6 heures du matin en partant à la nuit pour voir le lever du soleil avec les rizières en eau. Il y a des reflets, il y a des brumes, c'est magique.
Il faut être courageux quand on est voyageur, il faut se lever tôt.
Oui.
Alors, dans le studio, sur la table, on a déplié une grande carte de Chine pour essayer d'y voir un peu plus clair dans votre périple. Est-ce que vous pouvez le décrire, ce périple, mais alors sans carte, du coup ?
Oui, très, très succinctement, mais ça suffit bien. Donc, c'est un périple de 7000 km, disons. Et donc, nous sommes partis. Donc, c'est question de prix de billets de Hong Kong. Hein, nous avons fait Paris-Hong Kong. Et donc Hong Kong, Guangzhou, alors je m'excuse, mais ma prononciation chinoise n'est pas terrible.
C'est pas très grave, donc, la mienne non plus.
Guangdong, Canton, Shenzhen, Nanning, et là on arrive dans le Yunnan à Kunming, qui est la capitale. Hein, c'est une ville qui est à 1800 mètres d'altitude et où le climat est relativement tempéré. Et puis nous sommes descendus sur le sud, pratiquement à la limite de la frontière vietnamienne, c'est-à-dire dans le Sichuanbana. Les rizières que nous avons vues et que nous avons préférées, c'est celle de Yuangyang. C'est à peu près à 400 km de Kunming, au sud. Et puis après, nous sommes remontés sur Tali, Lijiang. Bon, Lijiang, on a beaucoup entendu parler, puisque cette ville a eu des tremblements de terre. Elle est classée à l'UNESCO. Par contre, c'est un afflux de touristes considérable. Et c'est quand même un peu gênant. On a essayé d'éviter dans ce voyage les très grandes villes et les endroits où il y avait beaucoup, beaucoup de touristes. Et il y en a. Bon, après, nous sommes remontés plus au nord. Et là, nous sommes allés chez les Mosso au lac Lugu. C'est un endroit superbe où le tourisme commence à arriver. Et Chengdu. Et après, nous avons changé complètement. Nous sommes allés dans les montagnes sacrées. C'est le paradis des arts martiaux, avec des temples suspendus dans les montagnes. C'est vraiment une très belle région.
Et le paradis des taoïstes.
Et des taoïstes, surtout, excusez-moi. Et donc, nous avons continué, toujours, nous sommes allés à Shaolin. Ce n'était pas prévu à l'origine. Et puis finalement, là, c'est le royaume du Kung Fu. On voit des plaines entières, disons, de jeunes, de... Par exemple de 4 à 20 ans, hein, garçons-filles, qui sont par groupe et qui tapent dans des punching balls, qui font de la gym, c'est à perte de vue. Il y a une école où il y a 7000 élèves, donc c'est énorme. Et puis après, nous sommes remontés encore sur Zhuangzhou, qui est une ville de 6 millions d'habitants,
une petite ville,
presque 7, mais qui est fort agréable. surtout le soir, parce qu'avec les lumières, c'est très agréable. Le matin, quand on se lève, on se croit un peu à Détroit, et il y a vraiment beaucoup de pollution. C'est pas très engageant. Et puis après, nous sommes redescendus sur Guling, dans le Guangxi. C'est une région que nous avons découverte, vraiment très belle, avec ce que l'on appelle les ponts de rivière et de la pluie. C'est des monuments, il y en a à peu près 120, c'est magnifique. Et puis nous avons refait Canton. Guandu, c'est une ville qui est quand même où il y a beaucoup à voir, avec l'île de Chimian. C'est une très belle ville. Et puis nous sommes revenus sur Hong Kong.
Très bien, donc essentiellement à l'ouest, ce périple.
Plutôt à l'ouest. C'est ce que nous avons préféré, d'autre part. Oui.
Alors, vous voyagez comment? En bus, en train, en stop, à pied, en vélo?
Alors ça, c'était dans l'intérêt du voyage, c'était de pouvoir expliquer aux personnes que je rencontre, parce que je fais partie d'un club de voyageurs qui s'appelle Aventuriers du bout du monde. On est 5 ou 6 000 adhérents, et j'ai constaté lors des soirées où l'on expose les voyages par thème selon la demande des gens, que beaucoup avaient peur d'aller en Chine, craignaient la Chine. C'était pas l'endroit où l'on voulait partir seul avec un petit budget. Évidemment, si l'on prend un tour opérateur et que tout est réglé,
oui,
il n'y a pas de problème. Aussi. Mais c'est pas le même attrait. Donc là, c'était un peu de dédramatiser un voyage en Chine. Donc, il faut savoir quelques formules de politesse en chinois, mais avec 30 mots, d'ailleurs, dans tous les pays du monde, 30-40 mots. Et puis avec un mauvais anglais comme j'ai, on s'en sort avec les bouquins de voyage. Les noms des villes sont indiqués en caractère chinois et en écriture normale.
Bon, cela dit, la communication avec les mossos, c'est peut-être pas évident.
Non, c'est pas évident, mais il y a les gestes, il y a les sourires, je pense.
On peut faire des dessins.
Aussi. Alors oui, il y a aussi des petits dictionnaires en caractère chinois, les dessins, les choses comme ça. Et puis on arrive très facilement à se faire comprendre, parce que il y a des pratiques que l'on n'a pas en France et en Europe. Dans un restaurant, si vous voulez manger des légumes et que vous savez pas dire, ben vous allez à la cuisine et vous mettez sur une assiette tout ce que vous voulez, et on vous ramène ça bien assaisonné, bien pimenté parfois.
Ça se faisait en Grèce avant ça.
Pardon ?
Il y a longtemps, ça se faisait en Grèce. On allait dans les tavernes.
Oui, mais je pense que. Ben, on n'ose pas le faire. En France, vous n'allez pas dans un restaurant, entre cuisine.
Ça se fait dans tous les pays dont on ne maîtrise pas la langue et où c'est compliqué.
Voilà, absolument. c'est fort agréable. Ça permet de voir qu'on lave bien les légumes, d'ailleurs.
Et vous avez bien mangé, évidemment.
Alors, absolument. Là, c'était pas une surprise, parce qu'on nous avait dit qu'on mangeait bien. Mais surtout, la surprise, c'est qu'on mange des choses très, très saines, beaucoup de légumes. Et avec les treks que l'on fait, et sans faire de régime, on perd beaucoup de kilos.
Alors ça veut dire que vous avez parlé de trek, donc vous voyagez à pied, non pas essentiellement?
Absolument, absolument. Donc oui, c'était dans votre question initiale. Donc on ne peut pas comparer du tout à l'Europe. Je vais dire, c'est peut-être exagéré, mais tout est facile. Il y a toujours un bus, un camion, il n'y a pas besoin de... La difficulté, c'est quand même les trains. On a fait, si je voulais des chiffres, on a fait un vol interne, on a fait 13% de vol en intérieur. C'est pas beaucoup, mais c'est un seul vol, mais c'est la distance. Et puis le reste, égalité entre les bus et les trains. Et donc c'est facile. Dans les gares, c'est bien affiché. Vous montrez avec votre livre en caractère chinois, si vous voulez. Vous faites les gestes. Et...
Enfin, c'est bien affiché, certes, mais votre train, il est affiché en chinois?
Ça fiche en chinois, mais les horaires et les numéros des trains, c'est les mêmes caractères, donc il n'y a pas de problème.
Oui.
Et il y a des panneaux qui font 3 mètres de long et 1 mètre de haut, donc on les voit bien.
Vous ne vous êtes jamais trompé de train?
Non, fort heureusement, parce qu'on aurait été bien ennuyé. Par contre, il est bon de réserver ses trains.
Oui, on peut pas partir tout de suite, il faut réserver 2 jours avant, quelque chose comme ça.
Ça dépend. Mais pour répondre à votre question, la logistique dans de tels voyages, dans n'importe quel pays, c'est très très important. Parce que la logistique, elle peut vous gâcher le voyage, c'est-à-dire perdre du temps. Non, mais si vous étudiez bien, sans y passer beaucoup de temps avec les bouquins de tourisme, eh bien vous pouvez voyager de nuit dans un train couchette, vous gagnez la nuit d'hôtel et vous payez pareil votre train. C'est tout un tas d'astuces qu'il faut avoir. On peut avoir son billet avec de la chance, arriver dans la ville et avoir son billet. On peut aussi, c'est un des une des plus grosses difficultés de nos voyages, avoir son billet, pas en wagon couchette, mais assis, et puis que ça soit surbooké. Il y avait le double de personnes dans le compartiment. Et donc ça, c'est très très difficile.
Oui, ça c'est effectivement fâcheux. Donc vous voyagez à pied, en train et en bus, pas de vélo, pas de moto. Alors, vous préparez toutes les étapes avant de partir, ou vous fonctionnez à l'instinct? Parce que vous avez parlé de préparation, mais c'est préparation générale ou chaque étape est minutieusement...
Non, je vais faire une réponse de Normand, c'est un peu les deux, mais la tendance, je dirais, si j'en choisissais une, c'est il y a beaucoup d'instinct. Par contre, par rapport aux villes que j'ai indiquées, la boucle que j'ai indiquée, ça fait une espèce d'ovale.
Ça fait combien de kilomètres d'ailleurs?
Ça fait 7000 kilomètres. Elle était prévue, mais on l'a dérivée. Et ce mode de voyage où l'on réserve absolument rien par avance, alors je peux vous dire, on n'avait absolument rien réservé, eh bien, ça vous permet de rester 2 jours de plus ou de partir plus vite ou de faire des détours. Et ce n'est pas plus compliqué.
Alors, quels sont les lieux qui vous ont séduit, à part les rizières?
Oui, oui, je vous l'aurais dit, vous avez bien fait de le rappeler. Ce qui nous a séduit, donc, c'est il y a une ville qui s'appelle Tianshui, c'est en dessous de Kunming, de la capitale. C'est une ville magnifique avec des vieilles maisons, beaucoup de traditionnels, tout plein de petites ruelles et des échoppes, mais ça on en trouve aussi ailleurs. Une vie musicale, de danse très très active, des monuments, des temples. Bon, on n'a pas passé tout notre temps dans les temples, mais on a quand même visité les plus importants. Il y a le temple de Confucius dans cette ville qui est le deuxième d'Europe. Et surtout, on a rencontré des gens, c'est la seule fois que ça s'est produit, c'est un des moments les plus émouvants, c'est les dames aux petits pieds. Et ces dames qui ont les pieds bandés depuis leur plus tendre enfance et qui claudiquent dans les rues, qui marchent avec des cannes.
Donc il y en a encore.
Et oui, et qui nous ont, surtout sans qu'on demande, qui nous ont montré, qui se sont déchaussés, qui nous ont montré leur mutilation. C'est vraiment...
Oui, parce qu'elles ont vu des étrangers, ils ne doivent pas y en avoir énormément.
Mais elles avaient envie de se confier. Donc
voilà.
Voilà.
Oui, c'était important ça. Alors, on a parlé des Mossos tout à l'heure. Pourquoi vous avez eu envie d'aller les voir, ces Mossos?
Mais au départ, c'est chez ABM où j'avais entendu parler des Mossos parce que peu de gens connaissent cette région, cette ethnie des Mossos. Alors les Mossos, juste un mot, donc pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un régime de vie matriarcale. Donc c'est la femme qui est le chef de famille, le chef de clan. C'est vraiment l'union libre, c'est-à-dire que la femme n'a pas de mari. Par contre, elle a, par exemple, on a mangé chez des vieilles dames. Elle avait 7 enfants, mais tous de pères différents. Donc, c'est leur mode de vie. S'il y a un homme dans la maison, ben, c'est pas le mari, c'est ou le frère ou l'oncle. Et c'est elles qui ont qui gèrent les enfants, qui ont les enfants. C'est pas le mari.
Et donc, c'est une femme chef du village, je crois.
Ces chefs, ces clans ou familles, c'est la Dabou, le nom, c'est la Dabou. Et il y a d'ailleurs un très bon livre là-dessus, c'est Adieu lac mer, puisque ce lac Lougou, les Mossos vivent autour du lac Lougou, il est surnommé là-bas lac mer, et donc Adieu lac mer, c'est un mère comme une mère de famille, donc c'est un très très bon bouquin qui relate la vie d'une jeune Mosso qui a eu la chance de devenir chanteuse, danseuse, mannequin, qui s'appelle Ersh Namu. Et donc, c'est un livre intéressant qui est très représentatif. Et donc, je l'avais lu avant et je l'ai relu après.
Ces Mossos, ils sont combien?
Les Mossos, ils sont plus très nombreux. Le chiffre, je pense que c'est autour de 20 000. Et donc, ils sont surtout répartis autour du lac Lougou. Et ils ont un physique qui n'est pas vraiment celui des Chinois. Ils font un peu sud-américain, si vous voulez. Enfin, chinois et sud-américain en même temps.
Ah, on s'y attend pas, parce que géographiquement, ils ne sont pas très loin du Tibet.
Ils sont à côté du Tibet, mais c'est très physiquement, les garçons comme les filles sont tous plutôt grands et beaux dans l'ensemble. Et alors, avec ce mode de vie où il n'y a pas de mari, il y a beaucoup de précautions qui sont prises au niveau des rapports, parce que on n'a pas vu de gens avec des dérives génétiques, avec des gens qui avaient des problèmes.
Oui, parce qu'ils sont, ils fonctionnent en autarcie, en circuit fermé.
Oui, absolument, mais donc on n'a pas constaté de dégâts de ce point de vue-là.
Est-ce que leur culture est menacée d'extinction?
La question,
L'extinction est possible pour les Mosso. Est-ce que les Chinois, disons modernes, qu'est-ce qu'ils en pensent, les Chinois modernes? Ils veulent les conserver un petit peu dans du formol, comme les réserves d'Indiens, ou...
Bon, c'est difficile à dire avec le peu de... Enfin, on a passé quand même une quinzaine de jours, mais ce que l'on peut dire, c'est que les Chinois que l'on a rencontrés connaissent très peu les Mosso et le lac Lugu. Quand on demandait à des gens s'ils connaissaient, les Chinois ne connaissent pas trop. Et on a quand même l'impression qu'ils vont essayer les autorités chinoises vont essayer de faire vivre, de préserver. Mais malgré tout, il faut quand même se méfier. C'est le tourisme qui peut nuire beaucoup. Parce que donc union libre, ça s'interprète par des touristes, par certaines pratiques.
Oui, c'est pas du tourisme sexuel, quoi.
Oui, mais il y a quand même des endroits, je l'ai vu sur les bouquins, je peux pas dire qu'on l'a constaté dans les endroits où nous sommes allés, mais il y a quand même de légères dérives de touristes sexuels. C'est ce qui est marqué sur les bouquins.
Voilà, mais finalement, c'est peut-être exagéré, parce que pour l'instant, la vie là-bas est... quand même assez...
C'est difficile, je ne serai pas formel sur ce que je peux dire là-dessus. On n'a pas constaté, nous, de problèmes importants. Donc.
Alors, vous êtes parti à la recherche d'une Chine traditionnelle, mais que reste-t-il aujourd'hui de la Chine traditionnelle?
La Chine traditionnelle, je reprendrai un peu ce qu'a dit Bruno Philippe dans l'interview que vous avez fait avec lui. Je pense que les campagnes sont très actives. On a l'impression que les gens ont de quoi vivre. Il n'y a pas de problème majeur de ce côté. Enfin, c'est l'impression qu'on a eue. Et donc, on retrouve les ethnies. Sur les ethnies, il y a 56 ethnies, je crois. On en a vu une bonne vingtaine. On retrouve les gens en costume traditionnel. On retrouve beaucoup de paradoxes aussi, parce que vous vous trouvez dans une rizière avec des paysannes en costume traditionnel dans la brume et dans la pluie et qui sont en train de téléphoner avec un portable, donc les choses sont assez galvaudées. Il y a beaucoup le portable, on a l'impression que les autorités arrosent les gens avec des portables, parce que tout le monde a son portable. Et alors, en plus, il y a beaucoup de réseaux. Le réseau est très dense, puisque tout a été nouveau. Ça a été fait comme il convient. Et du point de vue des portables, on utilise pratiquement partout.
Quel regard vous portez sur les villes chinoises et leur développement?
Sur les villes chinoises ayant des...
Et leur développement.
Alors, je pourrais faire en une phrase... Si je résumais, je dirais que la vision de la Chine qu'on a eue, c'est un gigantesque potager et une gigantesque zone d'élevage et un gigantesque chantier. Il y a des villes, j'ai fait des montages numériques que je projette un peu partout. On voit des villes où sur la même diapositive, sur le même document, vous avez 20 grues, vous avez... C'est assez fantastique. Et alors, ce qui est très précis, ça, par contre, c'est que d'une année à l'autre, puisque nous sommes allés deux années différentes, eh bien, vous cherchiez un hôtel que vous aviez adoré l'année d'avant. Vous dites au taxi, ben, emmenez-moi là, enfin, vous lui montrez. Et le taxi vous dit non. Et puis, comme on veut y aller quand même, ben, on insiste. Il vous y emmène et vous vous retrouvez au bord d'un grand trou ou d'une barricade. Tout est démoli. On a même vu la dernière fois... L'hôtel, quand nous sommes arrivés, était vivant, il commençait à être en travaux, et quand nous sommes revenus, il n'existait plus. Donc oui. c'est un mois d'intervalle, ça.
Et c'est ce qui rend si difficile l'édition d'un guide sur la Chine, parce qu'il est tout de suite obsolète.
Ouais, ça, vous avez raison de le souligner. On se demande, c'est quand même une gageure de vouloir faire un guide, mais il y en a un, et il sert quand même beaucoup, ça sert de repère et de base. Bon, et puis il y a des choses qui ne changent pas, les temples ne changent pas.
Oui,
tous les
c'est
jours,
les hôtels qui changent. Alors vous en avez un à recommander particulièrement?
Sans faire de pub, nous, moi je suis très Lonely Planet, mais donc...
Oui.
Mais pour la Chine, il y a aussi le guide bleu. J'avais le guide bleu qui était très bon.
Vous trouvez votre bonheur là-dedans.
Oui, on se sert du routard aussi. Et puis alors, bon, surtout, il faut aller à... Moi, j'ai la chance, je suis à Paris, mais je ne sais pas si on trouve ailleurs, mais c'est rue de la Boissy, si je ne me trompe pas. C'est à côté des Champs-Élysées, il y a l'office de la Chine où je suis allé, qui est très généreux, qui m'a donné toutes les cartes que je voulais par province où l'on voulait aller. Il y a quand même 28 provinces, donc, mais j'en ai pris qu'une dizaine, et puis des cartes de Chine. Donc on a été vraiment très, très bien renseignés.
Bon, donc aller plutôt à l'office du tourisme de Chine ou quelque chose comme ça.
J'ai l'adresse quelque part. Mais
je me demande si ce n'est pas rue Boissy-d'Anglas. C'est
près des Champs-Élysées. De mémoire, je dirais 51 rue de la Boissy, mais si vous allez là-bas, vous ne le trouvez pas.
Je pense que sur Internet, on va trouver ça facilement.
Oui.
Alors votre prochain voyage ?
Eh ben, c'est demain, donc le précédent c'était la semaine dernière. Et là je repars demain sur le Mékong, donc j'ai fait la Chine sur le Mékong et là je vais faire Laos, Cambodge, Thaïlande, Vietnam.
Bah, effectivement, il y aura de quoi faire. Vous restez combien de temps ?
Un mois.
Bon, eh bien Bernard Guironet, merci. Donc on vous retrouve à l'occasion ici ou là, lors des projections de vos photos. La prochaine, ce sera quand ?
Ben la prochaine, j'ai pas de date de définie parce que je suis en train de faire deux montages numériques, donc sur le Mékong et sur l'Indonésie d'où je viens, mais ça sera après les vacances d'été.
Et on vous retrouve bien évidemment au festival d'aventuriers du bout du monde.
Absolument. Donc là je voudrais signaler parce que là c'est ce qui m'a initié un peu au voyage, c'est chez ABM, Aventuriers du bout du monde. C'est à Paris dans le 14e et il y a un site qui est www.abm.fr où vous trouvez tous les résumés de voyage, tous les renseignements sur le Festival des Voyageurs.
Et la date du prochain festival, bien sûr.
Alors la date du prochain festival, c'est 26, 27, 28, je crois. C'est 3 jours avec des documents superbes.
Eh bien, c'est parfait. On parlera de Chine et de tous les autres pays du monde.